Vous écoutez IDFM, il est 14h.
IDFM Radio Enghien, bonjour, bienvenue, nouvelle heure avec un nouvel agenda des villes. La ville de Taverny et le théâtre Madeleine Renaud vous proposent ce soir une séance théâtre vidéo avec Fahrenheit 451 dans une société future qui a perdu le goût de lire et dans laquelle les pompiers ont pour mission de brûler les livres. Guy Montag, pompier sans histoire, à la faveur d'une rencontre avec Clarice McLean, commence à remettre sa vie en question et à lire des livres. C'est ce soir à 20h30 pour découvrir du théâtre et aussi de la vidéo Fahrenheit 451 sur la commune de Taverny au théâtre Madeleine Renaud. Pour en savoir davantage, le 01 34 18 65 00. Et l'agenda des villes, c'est aussi un autre concert qui a lieu ce soir, mais cette fois-ci du côté de la commune de Sannois à l'UMB. Venez découvrir Jazzy Baz et Eden Dillinger, membre éminent du collectif L'Entourage pour Jazzy Baz. Il est de retour 2 ans après P-Town, son premier album, qu'il était déjà venu présenter à l'EMB en décembre 2016. Frappé à 8 ans par le propos et l'attitude de figures majeures telles que MC Solar, NTM ou Danny Dan, il fait le lien entre les époques, accompagné du 3.14 band. Il signe son grand retour sur scène pour applaudir à la fois Jazzy Baz et Eden Dillinger ou Dillinger. C'est ce soir à 20h30 à l'UMB sur la commune de Sannois, et pour en savoir davantage, ville-sannois.fr. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Enghien.
Audrey Lamolly et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM Radio Enghien dans l'émission La Parole aux Associations, une émission qui met un coup de projecteur 2 vendredis par mois sur une association du Val d'Oise et sur ceux qui la font vivre. Alors cette semaine, nous recevons le club de bridge des vallées de l'Oise et du Sauceron. Le bridge, ce jeu ludique et cérébral apparu en Angleterre au XVIe siècle, d'abord avec son ancêtre le whist, et qui va devenir plus populaire dans les années 1750. Le bridge, c'est un jeu qui se joue à 4 avec un jeu de 52 cartes. Il oppose 2 camps, les joueurs face à face étant associés. La Grande Guerre, les tranchées contribuent à sa démocratisation et dans les années folles, le bridge fait son entrée dans les bistrots de province. C'est aussi l'heure des premières revues et des premières compétitions. Les règles ont connu de multiples changements. Pendant plusieurs décennies, il existe même simultanément plusieurs manières de jouer. Il faut attendre 1925 et le milliardaire américain Harold Vanderbilt pour édicter les premières règles. La Fédération française de bridge se crée en 1933. La France devient championne du monde en 1997 et on compte aujourd'hui plus d'1 500 000 joueurs, 95 000 adhérents, 1150 clubs, 6 000 élèves initiés dans les établissements scolaires et 29 salariés permanents. Le bridge, c'est aussi un vocabulaire précis et singulier. Les joueurs sont des points cardinaux, des déclarants, des entameurs. On parle d'atouts et sans atouts, de contrats, de donnes, de couleurs, de camps et de hauteurs. Il y a le mort, la main et la levée. Pour nous parler de cette association, j'accueille cet après-midi Hélène Burguero, présidente du club et joueuse addict, comme elle s'est elle-même définie. Pierre Proux, adhérent assidu et formateur bénévole dans les établissements scolaires. Et Manuel Prunier, arbitre national, animateur de club, enseignant de bridge, écrivain, joueur de haute compétition et double champion de France par 4 en 2016. Bonjour et bienvenue à tous les trois.
Bonjour.
Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord d'en savoir un peu plus sur nos invités dans la rubrique Portrait d'engagé, puis Hélène, Pierre et Emmanuel nous présenteront plus concrètement ce qu'est le bridge, comment on y joue et les multiples activités de l'association. Et en dernière partie d'émission, nous reviendrons sur l'ambition et les enjeux pour la Fédération française de faire reconnaître le bridge comme un sport. Alors tout d'abord, Hélène, Pierre, Manuel, je vous propose de faire votre portrait d'engagé pour mieux faire votre connaissance, si vous en êtes d'accord, évidemment.
Oui.
C'est parti.
Oui.
Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours en dehors de votre association, qui vous êtes, Hélène?
Bon, bah écoutez, je suis à la retraite. Donc, je travaillais dans une banque, et puis le bridge, je l'ai toujours connu, parce que mes parents jouaient au bridge, j'ai toujours regardé jouer au bridge. Et quand j'ai pris ma retraite avec mon mari, on s'est dit, parce qu'il jouait au bridge aussi, nous faisions du bridge dit de salon, et donc nous sommes venus à l'Isle-Adam, et nous avons intégré le club de l'Isle-Adam, et c'est comme ça que nous avons démarré dans un club de bridge.
Pierre ?
Alors moi, j'ai commencé le bridge il y a 50 ans. Parce qu'à l'époque, on jouait dans les facs, dans les écoles d'ingénieurs, on jouait beaucoup au bridge. Donc j'ai commencé à jouer au bridge il y a 50 ans. Et puis là, après, on privilégie la vie familiale, la vie professionnelle. Et j'ai arrêté de jouer pendant 35 ans et j'ai repris il y a une petite dizaine d'années. Et donc je joue, Hélène est ma partenaire, et je joue avec Hélène et j'interviens, je suis initiateur dans deux collèges du Val d'Oise.
Et alors Manuel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je vous ai un peu présenté, vous avez plein de casquettes différentes.
Oui, ça c'est
J'en
sûr.
J'en ai peut-être oublié.
Mais oui, en même temps, j'ai des casquettes qui datent un peu. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai toujours été joueur de cartes. Ça avait démarré avec la belote chez les grands-parents quand j'avais 7 ou 8 ans. J'ai toujours joué aux cartes pendant ma scolarité, au tarot, au barbu. Et puis j'ai fini évidemment par me mettre au bridge, puisque c'est le jeu le plus intéressant de cartes et le plus complexe. En arrivant à la fac et en terminant mes études, j'ai pas tout de suite démarré par le bridge, parce qu'en fait, j'ai fait 13 ans à la direction marketing au Galeries Lafayette. C'était un rapport assez éloigné avec le bridge. Mais j'ai toujours continué à jouer en tant que compétiteur. Et puis, l'opportunité s'est présentée il y a un peu plus de quasiment une quinzaine d'années de pouvoir me mettre à l'animation de club. Donc, j'ai été engagé pour animer un club, pour faire des arbitrages, et j'ai passé les différents stades successifs. Et donc, ça fait 15 ans que je travaille pour un club, pour le comité régional et pour la Fédération française en tant qu'arbitre.
Donc là, le bridge vous fait vivre, c'est votre travail.
C'est mon métier.
C'est votre métier.
C'est mon métier, du 1er janvier au 31 décembre, c'est mon métier.
Alors, j'allais vous poser à tous les trois la question, combien de temps ça vous prend, le bridge, par semaine, à peu près? Alors, Manuel, j'imagine que du
tous
coup, ça prend beaucoup de temps. Et le soir, vous rejouez, vous perfectionnez,
alors
vous arrêtez, vous en pouvez
non,
plus?
Non, pas du tout. C'est mon métier la semaine, du lundi au vendredi, de temps en temps le week-end en tant qu'arbitre, mais en tant que joueur de compétition, j'ai moi-même mes propres compétitions, et dans ce cas-là, effectivement, je joue en tant que compétiteur. Donc effectivement, c'est assez régulier.
Et vous, Hélène, alors?
Moi, je joue au moins deux jours par semaine, mais en principe, je joue plus que deux jours par semaine. Je joue au moins quatre jours par semaine. Je joue quelquefois sur l'ordinateur, en particulier avec Pierre, et puis dans un autre système aussi, ce qui permet d'avoir des liens avec des amis de façon quotidienne, assez sympa. Et puis, donc ça, c'est pour l'aspect ludique. Et autrement, il y a ce qui me prend comme temps pour la gestion du club. Et là, je dirais qu'en moyenne, c'est une heure par jour de travail administratif ou de réunion.
Donc là aussi, le bridge, partie intégrante de vos semaines.
Mon mari
semaines.
Trouve que je suis un peu addict là-dessus. Le bridge en général, organisation, gestion et le jeu, oui.
Et vous, Pierre, est-ce que
moi,
vous êtes addict aussi?
Deux fois par semaine, un tournoi, ça fait... Ça dure à peu près 3 heures, donc en jeu, c'est 6 heures par semaine. Un petit peu sur des sites internet, un petit peu sur les sites internet, et puis donc 2 fois 2 heures d'intervention dans les collèges.
Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le bridge? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on vient addict?
C'est un combat. C'est un
combat. C'est un terme un peu agressif.
Vous présentiez le bridge comme un jeu 2 contre 2. Et le gars qui est en face de vous, vous essayez de... Il y a des points à marquer. C'est-à-dire quand vous faites un contrat, vous marquez quelques points. Et le but du jeu, c'est marquer plus de points que les autres.
Donc vous, ce qui vous plaît, c'est le côté challenge et stratégie, quoi.
C'est le combat, moi, ouais.
Et alors carrément combat pour Pierre, oui, pour j'ai... Hélène qui bouge la tête.
Ouais. Non, mais
vous,
c'est
ce qui vous plaît le plus.
C'est de... Bien sûr, c'est quand on gagne, c'est très l'ego est très satisfait, mais c'est le plaisir de participer, de jouer, de
rencontrer des gens,
de rencontrer des gens. Tous les jeux sont différents, toutes les donnes sont c'est incroyable parce que vous faites. Je sais pas, enfin, Manuel pourra en parler plus que nous, mais vous faites 50 donnes dans une après-midi, parce que quand on fait une compétition, on a même 56 donnes, en principe. 56 donnes totalement différentes, avec, vous vous retrouvez avec des partenaires en adversaire qui sont différents. Donc,
il n'y a pas de routine.
Il n'y a aucune routine dans ce jeu. Aucune routine dans ce jeu.
Emmanuel, qu'est-ce qui vous plaît le plus?
C'est l'un des jeux les plus extraordinaires qui soit, et comme le précisait Hélène, en fait, vous pouvez jouer au bridge toute une vie, 2, 3 fois, 4 fois par semaine, et vous ne retomberez jamais sur une situation totalement identique. En fait, il y a je veux pas effrayer tout le monde, mais si on parle un tout petit peu de mathématiques, par exemple, le nombre de mains différentes que vous pouvez avoir de 13 cartes parmi un paquet de 52, c'est 600 milliards.
Là à retrouver la même situation.
Donc, là à retrouver la même situation, la probabilité est absolument inexistante. Donc, c'est pour ça que le plaisir est totalement renouvelé. On a beau avoir joué au bridge pendant 20 ou 30 ans, il y a toujours des axes d'amélioration.
Et on
est challengé en permanence. On peut devenir meilleur avec le temps.
Et est-ce que vous pourriez nous expliquer, peut-être le plus simplement possible, les règles de base du bridge, avant qu'on se mette à parler de bridge?
Alors les règles en fait sont extrêmement simples. C'est la stratégie du jeu qui est extrêmement complexe. Vous partez donc à 2 contre 2 avec chacun 13 cartes dans les mains, et en fonction de la valeur des cartes que vous avez, on va essayer de déterminer un contrat à deux par ce qu'on appelle l'intermédiaire d'une séquence d'enchères. Un contrat, et plus ce contrat sera élevé, c'est-à-dire si on propose un contrat qui fera 8 ou 9 levées, ça rapportera moins qu'un contrat où on essaiera d'en faire 12, par exemple, sur les 13. Et plus ce contrat est élevé, plus le risque est important et plus la prime est intéressante. Voilà. Et les deux camps se battent pour essayer de gagner ce contrat, sachant que ce contrat, vous pouvez aussi bien le jouer avec un atout sur l'une des quatre couleurs, les trèfles, les carreaux, les cœurs, les piques, qu'un contrat où il n'y aura pas d'atout. Dans ce cas-là, on appellera ça un contrat sans atout.
Voilà. D'accord, donc il y a une histoire de prédiction au départ du nombre
Exactement.
De points qu'on va atteindre.
Du nombre de levées qu'on peut faire potentiellement avec les mains dont on dispose.
Oui, donc c'est une grande adresse de l'esprit.
Énorme.
Et en plus, ça nécessite d'apprendre en permanence, parce que les règles évoluent. Et puis, même si les règles n'évoluent pas, on ne les connaît pas toutes. Et donc, en permanence, on peut apprendre, lire...
C'est un puits sans fond, en fait.
Sans fond.
C'est un puits sans fond. Ce jeu est un puits sans fond.
D'accord, mais comment ça se fait qu'il y ait des règles comme ça qu'on connaît
Mais à la base, c'est simple. Vous avez 4-5 ouvertures possibles, une dizaine de réponses, mais c'est le jumelage entre toutes les enchères pour arriver au meilleur contrat.
D'accord. Des combinaisons différentes.
Voilà. Mais oui, parce qu'en fait, les possibilités sont presque infinies sur le plan mathématique. Donc, arriver à maîtriser cet ensemble extrêmement large, c'est quasiment impossible, quel que soit le niveau technique que vous avez.
Donc, il faut quand même être bon en maths pour jouer, jouer au bridge.
Ça aide bien.
De toute façon, pour jouer aux cartes, il faut quand même avoir un intérêt pour les mathématiques
à
minima.
Un peu. Et puis c'est vrai qu'il faut aussi bien s'entendre avec son partenaire ou le connaître, adopter les mêmes procédures, etc. Donc c'est un puits sans fond, voilà.
Et alors comment vous avez connu le club, Hélène ?
Ben nous, quand on est arrivé, quand on a pris notre retraite et qu'on a quitté Paris, on est arrivé près de l'Isle-Adam. J'ai regardé sur internet, c'était il y a une dizaine d'années, j'ai regardé sur internet s'il y avait un club de bridge à Lille-Adam, et voilà, nous avons été accueillis très agréablement par ce club à l'époque, et nous y sommes restés.
En plus, vous dites que vous avez toujours connu le bridge, c'est-à-dire vos parents
j'ai toujours joué au bridge,
donc vous les avez vus.
Mes parents jouaient au bridge, je les ai toujours regardés, j'aimais beaucoup ça, même quand j'étais toute gamine, et puis après, j'ai tout au long de ma vie professionnelle, je jouais au bridge de temps en temps avec des amis, mais c'est un bridge assez différent quand même dans le
bridge de salon, c'est ça?
Le bridge de salon.
Ça veut dire quoi, bridge de salon? Si il y a le bridge de salon, il y a quoi en face? Il y a le bridge.
Est-ce que vous avez déjà joué à la belote?
Ou tarot. Non, mais m'emmenez pas sur les jeux de cartes, je suis nulle.
C'est une activité entre amis d'après-midi. Vous jouez aux cartes, vous jouez aux échecs avec un ami, etc. Ben, quand il y avait quatre personnes qui savaient jouer au bridge, ils jouaient dans le salon, ils s'assoyaient à une table et ils jouaient entre eux. Mais c'était une activité de détente. Contrairement au bridge de compétition que nous pratiquons tous les trois, où là, par contre, c'est le but du jeu, c'est de marquer beaucoup plus de points que les adversaires, etc. Alors qu'en salon, c'est quand même c'est de la détente. C'est passer un bon moment avec des amis.
Et on peut. Vous avez joué au bridge à partir de quel âge ? À quel âge on peut jouer au bridge ? Alors, oui. Il faut savoir compter.
Moi, je peux répondre parce que j'interviens dans des collèges et j'ai des gamins qui ont 11 ans. Ils commencent à jouer
D'accord.
à 11 ans. Et à 12, 13 ans, ils peuvent tenir leur place à une table.
Et alors, Pierre, vous avez connu le club comment, vous ?
Le club d'Hélène, c'est parce que c'est ma partenaire. Donc, on s'est rencontrés dans une compétition au comité du Val-de-Seine. Et puis, on a sympathisé et on joue ensemble maintenant. Mais le bridge, moi, j'ai commencé parce que dans les facs, dans le temps, et dans les écoles d'ingénieurs, dans le temps, il y avait des sections bridge.
D'accord. Emmanuel, le club des vallées de l'Oise et du Sausséron.
Alors moi, je suis moins présent sur le, on va dire sur le Val d'Oise, parce que moi, j'habite Saint-Nom-la-Bretèche, donc dans les Yvelines. Mais en tant qu'intervenant sur l'ensemble du comité, je connais beaucoup de gens, et évidemment, les gens me connaissent puisque j'ai une très grosse mission d'arbitrage. Donc les gens me côtoient assez régulièrement et je les côtoie également.
Et comment on devient arbitre ? Alors, vous êtes arbitre national ?
Arbitre national, oui.
Il y a des diplômes, une certification ?
Comme dans n'importe quelle activité sportive, les règles, on va dire, d'encadrement du jeu, ce qu'on appelle l'arbitrage, comme pour n'importe quel sport, il y a un certain nombre de connaissances qu'il faut avoir, de techniques qu'il faut maîtriser. Et évidemment, vous passez simplement des diplômes et que pour valider ce type d'acquis, il y a plusieurs grades de diplômes.
Oui, puisque par exemple, je suis arbitre, mais simplement, je ne peux arbitrer que dans un club.
Voilà. Il y a quatre grades. On démarre, c'est ce qu'on appelle arbitre de club, ensuite arbitre de comité, arbitre fédéral, puis arbitre national. Voilà.
Et ces diplômes, c'est combien de temps ? On le passe où ? À la fédération ?
Alors, vous voulez, ces diplômes, le premier grade en tant qu'arbitre de club, j'imagine, Hélène, que tu as dû le passer au comité ?
Oui, une semaine de formation et sanctionné par un oral, enfin, sanctionné par un diplôme, qui se passe avec un oral et un écrit, voilà. Un QCM d'une trentaine de questions.
En revanche, après, pour les grades suivants, c'est des diplômes que vous passez avec des stages à la Fédération française, avec plusieurs stades, un oral, un écrit, ce qu'on appelle des épreuves probatoires. Donc c'est des choses assez lourdes et extrêmement bien encadrées, et c'est pas des diplômes qu'on obtient si facilement que ça. Il faut vraiment avoir de très grosses compétences dans le domaine.
Et alors Manuel, j'ai vu que vous aviez écrit un livre,
oui.
Qui s'appelle Le jugement au bridge, oui. Une révélation, qui est paru en 2014.
Oui.
C'est une autre passion, l'écriture ?
C'était
une opportunité ?
Alors j'ai toujours adoré l'écriture, et comme en l'occurrence le bridge est ma passion principale, mais j'ai réussi à marier les deux avec, j'avais une envie.
Parce que c'est un roman, c'est pas...
Oui, c'est romancé, absolument. Je ne voulais pas écrire, il s'agissait pas d'écrire le xème manuel de bridge de plus sur un thème que tout le monde connaît et sur lequel il y a déjà eu 45 manuels. Non, il s'agissait de parler d'un sujet dont on parle très très peu dans la littérature bridgesque, et sous une forme assez originale, c'est-à-dire sous une forme romancée. Voilà.
Et alors Hélène, vous êtes donc la présidente du club de bridge depuis 3 ans, c'est ça ?
Oui, oui.
C'est la première fois que vous vous retrouvez avec des fonctions de dirigeante associative ?
Ah, totalement. Oui.
Et alors, concrètement, quand on est présidente d'un club de bridge, c'est quoi ses missions ?
Le but d'un club de bridge, c'est de faire pratiquer le bridge à ses adhérents. Donc,
le faire connaître.
Donc, par exemple, dans notre club, bien sûr, on organise des tournois 2 fois par semaine. On a aussi une école de bridge qui fonctionne toute l'année avec 3 années de première année, deuxième année et une année de perfectionnement. Là, pour cette école de bridge, nous avons 2 monitrices qui sont agréées, donc qui ont passé des diplômes de moniteur au sein du comité du Val-de-Seine. Et puis donc, c'est ça, c'est de faire marcher...
Faire vivre le club,
faire
quoi.
Vivre le club.
L'administrer aussi.
Il y a pas mal de... Nous avons un site internet. Nous organisons des réunions un peu conviviales quand il y a les tournois de temps en temps. Enfin voilà, c'est toute la vie du club. Oui. Nous avons 180 adhérents. Donc voilà, c'est la vie du club.
Donc du monde.
Oui.
Et alors Pierre, en plus de jouer, on va en reparler en deuxième partie d'émission, vous intervenez dans les établissements scolaires, mais ça vous vient d'où? Enfin, comment vous êtes retrouvé dans les collèges? Est-ce que c'était une envie de votre part? On vous a dit, allez Pierre, faut y aller?
Le comité du Val-de-Seine fait beaucoup d'efforts pour les jeunes, et donc il forme des volontaires. Il suffit de rencontrer un arbitre ou un président de club ou un membre du comité directeur du Val-de-Seine et vous demande. Moi, j'ai accepté, donc ils m'ont formé, pareil, il y a une formation. Et puis après, vous intervenez au départ avec une autre personne, vous travaillez à deux, vous voyez comment ça se passe, et puis petit à petit, vous prenez votre autonomie. Et donc, j'interviens dans deux collèges, et dans les deux collèges, on est à chaque fois deux ou trois initiateurs, et puis on s'occupe des enfants, soit en première année, soit en deuxième année, et plus rarement, parce que c'est dur de les garder, en troisième année, on appelle ça les cadets.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous. Je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir plus concrètement ce que fait le club de bridge des Vallées de l'Oise et du Sauceron juste après avoir écouté Clara Luciani, La Grenade. Sur IDFM Radio Anguin, dans l'émission La Parole aux associations, où nous recevons cet après-midi l'équipe du club de bridge des Vallées de l'Oise et du Sauceron. Hélène, vous êtes présidente de l'association, pour que ça parle à tous nos auditeurs. Les Vallées de l'Oise et du Sauceron, alors vous m'avez dit pendant la pause Sauceron et pas Sauceron, donc pardon pour le Sauceron. Concrètement, on parle de quelle ville ?
Alors on parle essentiellement de l'Isle-Adam, parce qu'en fait ce club résulte de la fusion de deux clubs. Il y a celui de l'Isle-Adam et un club qui était dans une petite ville à côté de l'Isle-Adam qui s'appelle Nel. Et donc Nel est traversée par le Sauceron, voilà le nom. Quand les deux clubs se sont réunis il y a environ 13 ou 15 ans, on a pris un nom qui permet d'englober ces deux localités. Donc voilà, mais le club lui-même est plus centré sur l'Isle-Adam quand même. Donc nous jouons une fois par semaine sur l'Isle-Adam et une fois par semaine à Nel, qui est la seconde ville. Mais nous avons, quand nous avons par exemple nos courses sont sur l'Isle-Adam, je dirais que notre adresse postale est sur l'Isle-Adam.
Il y a un ancrage plus sur l'Isle-Adam que sur Nel.
Sur l'Isle-Adam.
Et il y a beaucoup de clubs de bridge dans le Val d'Oise.
Alors dans le Val d'Oise, il y a une quinzaine de clubs de bridge. Il y a 15 clubs de bridge. Oui, il faut peut-être d'abord parler très rapidement, dire qu'il y a une structure. Donc les clubs dépendent d'un comité, lesquels comités dépendent de la Fédération française de bridge. Donc vous avez la Fédération française de bridge qui a des comités de bridge locaux, enfin régionaux, et après vous avez des clubs. Donc nous dépendons d'un comité qui s'appelle le comité du Val-de-Seine, où il y a 76 clubs, avec à peu près 6600 licenciés. Et au niveau du Val d'Oise, vous avez 15 clubs avec 1225 licenciés.
Et alors c'est un bon chiffre ça ? Est-ce que le Val d'Oise est joueuse de bridge ou...
C'est une bonne proportion dans le comité du Val de Seine.
Le comité du Val de Seine est un comité assez important quand même.
Et c'est même le plus gros.
C'est le plus gros,
ouais. C'est le plus gros en France.
Ah oui.
Et au niveau du club de l'Isle-Adam, nous avons 181 adhérents.
Et alors, qui sont ces adhérents ? Quel profil
Alors, les adhérents, ce sont des gens, c'est vrai, pour la majorité, qui sont à la retraite. Enfin, quand je dis majorité, c'est 80...
C'est la très grande majorité, c'est ça ?
Nous avons une école, donc les élèves, puisque nous les appelons des élèves, mais en principe, les élèves qui démarrent le bridge, ce sont quand même très souvent, au moins chez nous, des personnes qui viennent d'arriver à la retraite.
Et vous expliquez comment que le bridge mobilise plus de retraités, de seniors, attire de moins en moins de jeunes. Est-ce que c'est la complexité du jeu ?
C'est pas que ça. Enfin, je pense que Manuel pourra et Pierre pourront le dire. Le problème, il faut quand même pas mal de disponibilité pour jouer au bridge. Quand vous êtes jeune, vous avez d'autres envies, etc. Et c'est vrai que quand vous êtes à la retraite, c'est les gens qui arrivent à la retraite se cherchent des occupations. Et c'est vrai que c'est une occupation qui permet de satisfaire pas mal de besoins. Et donc, ça attire beaucoup les gens à la retraite.
Et alors, où est-ce que vous jouez ? Alors, vous jouez à l'Isle-Adam, mais vous avez des salles
alors
attitrées ?
Alors, nous n'avons pas une salle qui nous est réservée, mais vous avez beaucoup de clubs qui ont la chance d'avoir une salle qui est réservée, parce que je dis quand c'est la chance, ça veut dire que vos tables de bridge restent à demeure, etc.
Ah, il n'y a pas tout à réinstaller ? Est-ce que j'imagine qu'il faut beaucoup de tables et beaucoup de chaises ?
Il y a du matériel, etc. Mais nous avons la chance, à la mairie de l'Isle-Adam, d'avoir une mairie qui est très, très ouverte à nos besoins. Et donc, on a une salle une fois par semaine, elle nous prête des salles pour les cours. Et quand on a des compétitions, on n'a aucun souci pour avoir des salles. Donc, on a une mairie qui est quand même très positive à notre égard.
Et alors, on pense souvent que le bridge est réservé à une élite et que c'est un loisir qui coûte cher. Pourquoi on a ces représentations ? Est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce que c'est un loisir qui coûte cher ? Est-ce que, par son histoire...
Je ne pense pas que ce soit un loisir qui coûte très cher. Bon, il y a l'adhésion, il y a la licence à la Fédération française de bridge, c'est 43 euros par an. Après, vous avez les adhésions dans les clubs qui sont aux environs de 25 euros. Les clubs ont des montants d'adhésion qui peuvent être différents. Et après, vous jouez, par exemple, sur le Val de... Nous, quand on joue, c'est 2 euros. Donc, vous voyez, c'est pas...
D'où ça vient, cette...
C'est une fausse idée.
Parce que le bridge de salon dont on parlait tout à l'heure, c'était quand même une activité bourgeoise. moi je dis. Et pourquoi il y a moins de jeunes maintenant? C'est parce qu'ils ont plus de tentations. Nous, à notre époque, dans les facs et dans les écoles d'ingénieurs, comme je vous parlais tout à l'heure, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui se mettaient au bridge. Et la majorité des élites des années 90 venaient des écoles d'ingénieurs. Mmh. Alors que maintenant, dans les facs, il n'y a plus ces activités-là. Il y a encore quelques grandes écoles qui ont des élèves qui jouent au bridge. Mais d'une manière générale, ce n'est plus tellement le cas.
On joue au poker maintenant, non?
Ils jouent au poker.
Les jeunes préfèrent jouer au poker.
Les jeunes jouent au poker. Et puis, ils jouent à d'autres jeux en réseau, hein, sur Internet.
Il y a des clubs un peu plus smart, quand même. J'imagine en Île-de-France, qui sont
pas
encore...
forcément, pas forcément, non. Non, non, pas forcément. Les clubs de bridge sont ouverts à un public extrêmement large. Et à part, j'imagine, quelques clubs extrêmement privés qui peuvent être situés dans des golfs ou dans ce type de structure et qui n'accueilleront que une catégorie de gens avec le principe d'accueil élitiste dont ils font preuve aussi, par exemple, pour le golf. Mais d'une manière générale, l'ensemble des clubs de bridge sont absolument ouverts à tous. Donc le côté élitiste, même s'il a existé, parce que le bridge, c'est vrai qu'il c'est un jeu qui a été lancé par la grande aristocratie au siècle dernier ou à peu près de manière un peu plus développée, mais cette histoire d'élitisme aujourd'hui n'a plus lieu d'être et pourtant malgré tout elle perdure.
Et on voit quand même, il y a 15 clubs dans le Val d'Oise, donc il est quand même assez accessible.
Absolument. Ah
oui. Même si, j'imagine, là, ça m'amène à toutes ces règles et aux stratégies à maîtriser, donc à s'exercer, à apprendre en continu. C'est bien pour ça que dans votre club, il y a des cours pour apprendre.
Absolument, comme dans beaucoup de clubs, d'ailleurs. Y a beaucoup de clubs ont une école de bridge.
Donc c'est 3 fois par semaine?
Il y a trois niveaux, donc c'est 3 fois par semaine, oui.
Et alors, comment vous trouvez vos professeurs de bridge? Alors, là, vous avez
Avons deux monitrices. Alors, dans notre club, ça s'est fait de la façon suivante. Il y avait une jeune femme, parce qu'elle était plus jeune que l'ensemble. Elle avait une cinquantaine d'années, dont on s'est dit, il y a 7 ou 8 ans, qu'elle avait un certain don pédagogique, et donc on lui en a parlé, et elle a suivi les cours de monitrice, et voilà, et elle réussit très très bien à fidéliser les élèves, à les motiver, et on le voit par exemple maintenant, on a pas mal d'élèves qui démarrent de la compétition. Donc c'est des gens qu'elle a réussi à former, bien sûr, et à motiver pour continuer à faire des tournois, faire des compétitions et rentrer dans le système du bridge.
Il faut combien de temps pour arriver pour aller s'inscrire, pour jouer en compétition?
Je dirais 2 ans.
Deux
ans pour jouer en club et puis pour jouer en compétition officielle. Peut-être 3-4 ans quand même, parce qu'il faut se roder. Mais 2 ans, au bout de 2 ans, on peut prendre du plaisir à jouer en club.
Et oui, tout à fait. Pierre a totalement raison. C'est-à-dire que le programme qu'a fabriqué la fédération d'enseignement du bridge pour les débutants est un cycle qui est sur 2 voire 3 années. Et que normalement, après avoir suivi ce cycle, vous êtes tout à fait apte à aller jouer des tournois en club. Voilà, et ensuite à vous mettre à la compétition.
Et par exemple, si vous voulez, dans beaucoup de clubs, enfin je parle pour le mien, vous avez une après-midi par semaine, les élèves qui justement ont appris la théorie peuvent venir la mettre en pratique dans des séances d'entraînement. Et une fois par mois, on fait un tournoi qui est essentiellement tourné vers les élèves, le soir, où ils peuvent jouer avec des joueurs confirmés, 10 par 1, et donc ils s'initient petit à petit à la notion de tournoi et à mettre en pratique ce qu'ils ont appris.
De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend.
Totalement,
parce que les stratégies, comme vous l'avez évoqué, il y a tellement de combinaisons qu'il faut s'y frotter pour voir.
Il faut
un système de parrain, de mentor, un petit peu, qui vient un peu driver, conseiller les débutants. Alors, donc, il y a des tournois d'entraînement et des tournois de compétition.
Il y a des tournois, les tournois dits normaux ou réguliers, ce sont des tournois
réguliers. De club.
De club, dans les clubs.
Chaque club organise 2 ou 3 tournois par semaine.
Vous avez le tournoi et après vous avez les compétitions qui se font au niveau du comité, justement.
Donc là, ça veut dire que vous rencontrez des clubs.
D'autres clubs.
D'autres villes, d'autres départements.
Oui.
Et bon, après, d'autres régions.
Absolument. Et après, au niveau national, quand par hasard.
Vous avez un premier stade où, effectivement, la compétition, bah, vous rencontrez des gens que vous, la plupart du temps, les gens se connaissent, hein, parce que ce n'est pas un milieu extrêmement étendu. On revoit toujours les mêmes têtes, donc les gens se connaissent. Donc, on rencontre des gens au niveau régional. Ensuite, il y a une qualification pour le stade d'après. Et ça se termine au niveau national, où vous avez ce qu'on appelle une finale nationale organisée à la Fédération française, où là, effectivement, vous allez côtoyer des gens qui viennent de toutes les régions de France.
Et c'est le Graal, c'est-à-dire que tout le but d'une paire Eurobridge, parce qu'on dit une paire parce que ça se joue à deux, le but c'est d'aller en finale nationale. Quand on est en finale nationale, on est super content.
Oui, parce qu'après, quand vous gagnez en finale nationale, c'est le titre de champion de France.
Ce que vous avez eu, Manuel.
Ce qui m'est arrivé, oui, déjà.
Hélène, Pierre,
oh non, pas du tout. Moi, je suis allé en finale nationale.
J'ai fait troisième, moi.
Troisième.
C'est des catégories, c'est un peu comme au foot, la première division, deuxième division, troisième division. Et dans ma catégorie... J'ai fini troisième en mixte.
Et alors les compétitions, les championnats mondiaux, c'est tous les ans au bridge? Ça se passe comment? C'est qui le dernier pays champion du monde?
National, c'est tous les ans. Maintenant, Emmanuel, vas-y, dis-nous pour...
Alors sur un plan international, vous avez généralement une, voire deux compétitions par an. Sachant que la plus belle et la plus prestigieuse des compétitions est ce qu'on appelle la Bermuda Bowl. Parce qu'elle
on
a
joue
été...
en Bermuda ?
Non, pas tout à fait. C'est parce que la première année où elle a été organisée, c'était aux Bermudes. Et donc, ça s'est appelé la Bermuda Bowl, qui est la plus grande et la plus prestigieuse des compétitions par équipe pour représenter chaque nation étant représentée avec un certain nombre de qualifiés. Et c'est vraiment... On peut considérer que c'est le titre suprême. Voilà.
Et c'est organisé en France l'année dernière ?
Où ?
À Lyon.
Alors la dernière a été organisée à Lyon et l'équipe de France malheureusement a perdu en finale contre les Américains de pas grand chose.
Donc ce sont les Américains, les derniers en titre.
Qui sont les actuels champions du monde.
Et alors on comprend, donc le bridge c'est une histoire d'équipe, en tout cas de binôme. Comment on choisit son binôme ? Est-ce que on le trouve et on le lâche plus ? Est-ce qu'on change ? Est-ce que... Et si on n'en a pas, qu'est-ce qui se passe ?
Alors le but, c'est de jouer à deux. Moi, je joue avec Hélène, donc on s'est rencontrés dans une compète, et puis on a fini par former une équipe. C'est compliqué de jouer avec quelqu'un. Quand je suis venu avec Hélène, j'ai déjà rompu avec deux autres partenaires.
On dirait que vous parlez d'amour.
C'est un divorce. Mais c'est très dur, hein, parce que c'est... Il y a des tensions dans une équipe, il y a forcément une tension. C'est comme un couple, quand ça va bien, tout va bien, et quand on joue moins bien... C'est souvent l'autre qui a tort. Presque toujours.
Vous voyez, vous parliez d'amour, ça y est, c'est fait.
Mais ce qu'il faut... Bon, là, on est déjà au niveau des compétitions, mais dans un club, par exemple, dans le nôtre, je parle mieux du mien que des autres, il y a ce qu'on appelle un joker. C'est-à-dire que toute personne qui a envie de venir jouer au bridge et qui est toute seule peut venir dans un club. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ont des jokers.
Ou un oui, pas mal,
de jokaria. Donc, toute personne qui rentre dans notre club... doit être licencié à la fédération, ça d'accord, mais après n'est pas du tout obligé d'être adhérente du club. Vous pouvez circuler dans tous les clubs. Je pense que Pierre ou moi, Manuel, je ne sais pas, mais on joue dans plusieurs clubs. Je vais jouer dans plusieurs clubs du Val d'Oise. On a des liens entre clubs, etc. Et il y a ce système de jokaria. Donc quelqu'un qui est tout seul peut arriver et rencontrer comme ça d'autres personnes.
Ouvert à tous.
C'est parce qu'il y a un langage qui est commun à tous les bridgeurs. Ça s'appelle le CEF, c'est le système d'enseignement français, c'est ça ?
Oui.
Tout le monde, vous pouvez jouer avec n'importe qui quand vous jouez le CEF. Par contre, quand vous montez une paire, vous mettez des combinaisons au point, plus précises. Mais si demain vous apprenez à jouer au bridge, on peut jouer avec vous dans n'importe quel club. On peut jouer avec une personne qu'on ne connaît pas parce qu'il y a un système, il y a un langage
de base.
Donc Pierre et Hélène, vous êtes binôme partenaire au bridge, est-ce que vous avez d'autres partenaires ?
En ce qui me concerne, oui, déjà mon mari.
Vous allez voir ailleurs, donc
mon mari déjà...
C'est l'inverse, elle est venue voir ailleurs en venant me voir, parce qu'elle joue avec son mari normalement.
Mon mari, et puis quand quelques amies féminines aussi, puisque en plus par exemple des compétitions, vous avez des compétitions qui se jouent par paire d'âmes, Donc, je ne peux pas jouer avec Pierre, c'est difficile. Voilà, donc oui, j'ai plusieurs partenaires.
Donc, c'est des rencontres.
Mais absolument.
Et puis, ça marche bien,
c'est
le jeu passe bien.
C'est vrai, que, et puis on s'entend bien. Il y en a avec qui ça passe bien, même si on peut très bien être ami avec quelqu'un, mais que ça ne passe pas. Que ça, le bridge, au niveau du bridge...
C'est-à-dire qu'en fait, au bridge, la réussite d'une paire, c'est-à-dire de deux personnes, dépend beaucoup, beaucoup de la communication qu'on va avoir au niveau du jeu. Il faut que cette communication soit totalement fluide. Donc, il faut absolument qu'on soit en phase totale avec son partenaire.
Une très grande confiance.
Donc, avoir une très grande confiance avec ce partenaire, être en phase totale, avoir une communication parfaite, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Et quand vous voulez vous trouver un partenaire, il arrive régulièrement, je ne sais pas pour vous, Hélène et Pierre, mais qu'on fasse plusieurs essais avant de trouver le bon ou
le
la bonne.
Bien sûr. Ça se dispute plus quand on joue avec son mari ou sa femme ou finalement les tensions peuvent arriver
Il y a pas mal de couples où c'est un peu compliqué.
Le sujet est délicat. Ouais.
Mais en ce qui nous concerne, je pense que Pierre, on avait décidé que si on se disputait au bridge, on arrêtait de jouer à bridge tous les deux. Donc on ne se dispute en principe jamais sur une table.
On se fait les gros yeux, surtout Hélène, mais on se dispute pas.
Oui, il paraît que j'ai le regard.
Si vous jouez avec votre mari ou votre femme, ça peut quand vous rentrez à la maison le soir, vous pouvez continuer la guerre. Alors que nous,
Vous rentrez chacun quand même.
On parle d'autre chose et puis ça calme.
Oui, pardon.
Oui, allez-y, Hélène.
Non, mais j'allais dire qu'avec mon mari, par exemple, on se dit... Oh, non, non.
Après, on ne se parle plus pendant 15 jours. Donc...
Oh, non, non, là, il n'y a pas de ce sujet. Non, parce que, mais ça dépend
Évidemment.
Ça dépend des personnalités.
Pierre, vous animez donc des clubs de bridge. Vous êtes initiateur dans les collèges.
Oui, dans deux collèges.
Qui se trouvent où?
À Pontoise, les deux.
Alors... Vous êtes le club est allé prospecter à Pontoise. C'est Pontoise qui est venu voir.
Ça fait une quinzaine d'années que le comité a monté une dénomination qui s'appelle le Jones Club. C'est pour les enfants de collège. Et en fait, il y a une dame qui s'appelle Annie Creuset qui a démarché dans plusieurs collèges. Et on en est là. Il y a 16 clubs Jones dans le Val de Seine, dont 5 dans le Val d'Oise.
Et alors, vous y allez quoi? Toutes les semaines?
J'y vais.
Sur les temps
donc
du
j'interviens.
Midi
le jeudi dans un et le vendredi dans l'autre. Normalement, je devrais y être, là. Et pendant 2 heures, on a une dizaine de gamins conformes, suivant un programme qui a été établi par le comité du Val-de-Seine et qui est très, très bien fait.
Mais c'est en dehors de leur temps scolaire.
Bah, ils font ça pendant leur repas, leur pause de midi.
Et alors, vous avez beaucoup de monde? Est-ce qu'il faut convaincre un peu les collégiens de venir à votre club?
C'est comme partout, on fait des journées d'essai, c'est-à-dire deux ou trois fois, ils viennent voir comme ça, et puis si ça accroche, eh bien, ils s'inscrivent et puis ils participent. Quand ils sont inscrits, ils s'engagent à venir toute l'année, par contre. Mais une fois qu'ils ont fait les journées d'essai, en général, ils viennent.
Ça va, ils accrochent plutôt bien.
Alors c'est dur de les garder d'une année sur l'autre, mais généralement, ça marche pas mal, ouais.
Et vous êtes en lien avec les enseignants un peu pour que ça fasse un peu écho avec...
Ils savent qu'on intervient, mais il n'y a pas de collaboration avec eux.
Alors je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs sur IDFM Radio Anguin. À tout de suite.
Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Des paroles comme des pétales et des... même si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Par les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. Y a une idée pas dans mon air. Changer les âmes, changer les cœurs avec les bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs.
Vous êtes toujours dans l'émission La Parole aux associations avec Hélène Burguero, Pierre Prou et Manuel Prunier. Alors Manuel, vous qui êtes arbitre national, joueur de haute compétition, le bridge a déjà, il me semble, été reconnu ou en tout cas considéré comme un sport aux Jeux Olympiques, à ceux de Salt Lake City, non ?
Oui, enfin, c'était plus une démonstration qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait des Olympiades, mais ça n'a pas jamais été reconnu en tant que sport olympique à ce titre-là.
Alors, je crois que c'est une ambition pour le monde du bridge d'être reconnu comme un sport. Pourquoi ?
Alors, la reconnaissance de l'activité du bridge comme un sport ouvre un certain nombre de perspectives pour la fédération française. Le fait d'être simplement reconnu en tant que fédération sportive ouvre déjà un certain nombre de subventions. Vous allez me dire, c'est bassement matérialiste mon discours, mais c'est quand même le nerf de la guerre.
Tout à fait.
Voilà, donc ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors en revanche, une des premières étapes avant de pouvoir être reconnu en tant que fédération sportive, ça a été la signature d'une convention avec l'éducation nationale pour proposer, dans le cadre de l'enseignement des mathématiques, en milieu scolaire, aussi bien en primaire qu'au collège, de proposer le bridge pour aider à l'enseignement des mathématiques, puisque le bridge dans le cadre des mathématiques revêt un aspect beaucoup plus ludique que ne peuvent le faire les mathématiques en elles-mêmes, qui sont un peu ardues pour beaucoup d'élèves.
C'est un peu mettre en application les maths,
exactement,
et donner peut-être
exactement.
Soit un petit peu plus envie, soit que ça fasse plus résonance.
C'est un jeu de stratégie qui met en valeur un certain nombre de qualités et qui développe votre faculté de concentration, de mémorisation, de calcul mental, et débouchant sur des notions de type statistique, probabilité, qui sont des fondamentaux de l'enseignement des mathématiques jusque même dans les études supérieures.
Donc là, ce contrat a été, ce partenariat.
Alors cette convention, elle date de 2012.
D'accord.
Ça fait déjà 7 ans maintenant. Suite à cette convention, il y a un certain nombre de profs de maths qui ont été formés. Puisqu'évidemment, pour dispenser un enseignement de bridge, il faut aller quand même qu'ils reçoivent une formation. Alors j'imagine qu'un certain nombre d'entre eux jouaient déjà au bridge, mais pour ceux qui ne jouaient pas et qui étaient intéressés dans le cadre de leur cours, ils ont reçu donc un enseignement en tant qu'initiateur, puisque effectivement, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, on en a parlé, il faut former des initiateurs pour former au bridge. Et depuis, ils peuvent dispenser, dans le cadre de leur cours de leur mathématiques, un rythme hebdomadaire, dispenser des cours de bridge avec l'aspect ludique. Et pour les enfants, c'est extrêmement, ils accrochent énormément.
Oui, puis ça développe des compétences qui sont aussi autres et qui sont peut-être encore plus transversales, c'est-à-dire la patience, la stratégie, la communication non verbale, verbale.
L'initiative, l'esprit d'équipe, la prise de décision, ça développe aussi un certain nombre de compétences qui peuvent leur servir dans le monde professionnel ensuite. Hein.
Alors là, on voit qu'il y a donc un partenariat depuis 2012 avec l'éducation nationale. Vous parliez de subventions. Les subventions, elles permettent aussi de salarier des personnes et de dédier du temps aussi à la communication du bridge, parce que il suffit pas d'avoir ce, ce partenariat avec l'éducation nationale. Il faut ensuite pouvoir donner envie peut-être aux professeurs de maths, notamment, de, bah, de s'initier et puis de le mettre en place. Ça s'accompagne certainement.
Ben oui, la convention a permis, je n'ai pas eu le temps de préciser tout à l'heure, mais de former 150 profs de maths en 2014, ce qui est déjà un nombre assez intéressant. Et c'est vraiment, cette convention est vraiment le premier pas vers le statut de fédération sportive. Alors, les choses ont encore évolué, parce que là, la convention date de 2012, puisque l'année dernière, en 2018, comme vous le savez, notre dernière médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, qui est Cédric Villani, qui a été commissionné par le gouvernement pour faire un rapport sur l'enseignement des mathématiques et le niveau des élèves en mathématiques, est venu lui-même à la Fédération française pour voir comment ça se déroulait l'enseignement du bridge, comment on pouvait l'adapter à l'enseignement des mathématiques. Il a été absolument emballé.
Alors la deuxième étape ou la troisième étape pour être fédération
sportive,
fédération sportive, c'est quoi après?
Ben, c'est une étape législative, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que le ministère des Sports accueille la fédération française en tant que fédération sportive.
Avec... Il y a des choses qui sont faites là en ce moment, je ne sais pas, de la publicité.
On y travaille, il y a des contacts, mais vous savez, c'est toujours pareil. Ça reste malgré tout quand même de la politique. Et puis il faut apporter un certain nombre de garanties pour devenir une fédération sportive. Il faut que le ministère soit totalement convaincu de l'intérêt. Alors les choses évoluent avec le temps et on espère qu'on pourra y parvenir avec le bridge dans les quelques années qui viennent.
Parce que j'ai vu qu'il y avait plus d'1,5 million de joueurs en France, peut-être c'est plus.
Alors,
c'est quand même pas mal.
Comme l'a dit Hélène ou Pierre, je ne sais plus, tout à l'heure, on a 95 000 licenciés. Mais si on devait estimer les joueurs de bridge en prenant la partie bridge de salon, bridge loisir, détente, je sais pas quelle évaluation on a. Moi j'avais entendu dire 1,5 million, oui. 2 millions en France, quelque chose comme
c'est
ça.
Le chiffre qui est
même
donné,
c'est oui. Difficile à évaluer, mais c'est cet ordre-là probablement, oui.
Et il y a des manifestations, on parlait de la compétition internationale Bermuda
Bowl.
Est-ce qu'il y a des manifestations un peu de grande envergure comme ça, je ne sais pas, en France, est-ce qu'il y a un événement
Très régulièrement, très régulièrement. Vous avez ce qu'on appelle quelque chose qui est très très orienté sur les époques d'été, ce qu'on appelle des festivals. Qui sont la plupart du temps organisés dans des stations balnéaires ou des stations thermales. Il existe en France qui sont marqués, qui sont à des périodes chaque année, qui sont de très grandes manifestations de bridge, qui accueillent plusieurs épreuves de bridge sur 10 voire 15 jours, avec un côté extrêmement festif, avec des tournois immenses qui peuvent réunir 300, 400 personnes, qui sont vraiment des manifestations que les bridgeurs adorent.
Qui drainent énormément de monde.
Ah oui, ça draine énormément de monde.
Et pas seulement les Français. Hein.
Et oui, et sachant que ces festivals sont internationaux, bien sûr. Donc il y a une partie des gens qui viennent de l'étranger.
Mais c'est où, par exemple?
Alors,
Biarritz, La Baule.
Il y a Biarritz, La Baule, Jouan-les-Pins, Le Touquet, pour citer les plus gros.
Et en plus, Hélène me disait en préparant l'émission que je crois qu'il y a des croisières.
Oui.
Bridge.
Ah oui,
carrément, on part sur un bateau, on voyage, on est enfermé, on ne joue qu'au bridge.
Bah, le matin,
et on s'amuse.
Le matin, vous avez des cours, par exemple, et l'après-midi, des tournois.
D'accord, alors, vous en avez fait, Hélène? Vous?
Oui.
Et ça vous plaît?
J'ai bien aimé, oui.
Ouais.
J'ai bien
aimé. Vous parliez de croisières, Audrey, mais il n'y a pas que des croisières. Hein, dans le cas des voyages bridge, ce n'est pas juste les croisières. Il peut y avoir sur des lieux en étant sédentaire. Hein,
oui,
à la mer, à la montagne, à la neige, on voit tout ce que vous voulez.
Oui, en fait, le club, on parlait pendant la pause musicale, une fois qu'on est bridgeur, en fait, on peut jouer un peu partout où
absolument,
on va.
Absolument.
Un peu partout, n'importe quand dans l'année.
On peut aller dans des clubs.
C'est génial. Ouais, c'est
oui, en France, vous pouvez aller dans tous les clubs de France et vous avez des clubs de la fédération que vous retrouvez à Londres, au Portugal, dans des tas de pays. vous pouvez aller jouer au bridge.
Ouais, donc on a vu avec vous on pouvait dans votre club jouer au bridge, mais on peut aussi s'amuser. Vous organisez là.
Oui, mais on organise.
On revient sur le club.
Fêtes, on organise, on accompagne un certain nombre de tournois d'un apéritif, d'un déjeuner ou.
Parce qu'il faut aussi trouver son partenaire, il faut trouver.
Il faut que les gens. C'est aussi. On vient pour jouer au bridge, mais il y a aussi tout un côté convivial et de rencontres. C'est pour ça aussi qu'on fait pas mal de tournois en association avec d'autres clubs. Par exemple, sur les clubs du Val d'Oise, où on est un petit peu le nord du Val de Seine, enfin du comité, on se réunit assez souvent pour faire des tournois entre différents clubs pour que les gens se connaissent, qu'il y ait des liens qui se créent.
Et vous participez à des temps de la ville, par exemple de l'Isle-Adam, les forums associatifs ou d'autres événements
bien sûr. Les forums associatifs, c'est un endroit très important pour nous, pour nous faire connaître et pour faire venir des gens et par exemple les inscriptions en cours de bridge se font essentiellement sur le forum des associations.
D'accord.
Où là la monitrice est là, explique, on joue au bridge devant tout le monde pour montrer un peu comment ça se passe, donc les gens s'arrêtent, viennent discuter et c'est comme ça qu'on recrute beaucoup d'élèves.
D'accord, donc en fait, le bridge au club des Vallées de l'Oise, c'est pour jouer, pour apprendre, pour s'entraîner, pour s'amuser.
Pour se retrouver ensemble.
Pour être entre amis.
Et puis alors du coup, un travail, je dirais, plus continu au niveau national pour essayer de faire en sorte que le bridge devienne un sport, soit reconnu peut-être aux JO un jour. Je savais pas qu'on pouvait être présenté aux JO sans être considéré comme
pourquoi
un sport.
Pourquoi pas? Non, mais
parce que là, avec 2024, on a vu toutes les frustrations de la pétanque pas reconnue, du surf reconnu.
Commençons par être reconnu comme fédération sportive. Pour les JO, on verra après.
Merci beaucoup à tous les trois, Hélène Burguero, Pierre Proux et Emmanuel Prunier, de nous avoir donné envie de jouer au bridge, de nous avoir aussi bien expliqué l'intérêt et l'ambition attribuée à ce jeu pour le moment, peut-être dirons-nous un jour sport. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment on peut vous contacter, Hélène?
Alors, nous, par exemple, on fait club de bridge à l'Isle-Adam et on tombe sur notre site internet et on peut voir. Et sur le site de la Fédération française de bridge, vous avez une rubrique où vous jouez si vous. Donc toute personne qui veut jouer au bridge, si elle tape bridge sur internet, je pense.
Bridge que... Val d'Oise.
Ou bridge Fédération française.
L'Isle-Adam, elle va.
Parce que
nous,
quand on est arrivé il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas de site internet encore sur. Mais bridge de l'Isle-Adam, j'ai trouvé la mairie de gérer les associations et comme ça, j'ai trouvé.
Et vous êtes référencé dans le guide des associations de
la mairie de
l'Isle-Adam et peut-être
là,
de NEL.
Il n'y a pas de problème. Non, le NEL, je ne pense pas, mais sur le livre de l'Isle-Adam, bien sûr, nous sommes référencés dans les associations.
J'ai été ravie de faire votre connaissance, de mieux connaître le bridge, mais aussi votre association. Je vous souhaite une belle continuation, de belles perspectives de développement et encore beaucoup de plaisir à jouer. Je remercie également encore et toujours Philippe pour la technique de cette émission. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à la parole aux associations, il vous suffit de nous contacter à l'adresse suivante, contact@csa95.com. C'était Audrey Lamolly sur IDFM Radio Anguin. Je vous donne rendez-vous vendredi 5 avril à 14h. Je recevrai l'association Écocotte. Bonne fin de semaine à tous.